peut-être que par quelques croyances assez superficielles que l'on peut mobiliser pour cette question, enfin ce rapport, disons cette représentation de l'humanitaire, mais l'humanitaire est profondément inégalitaire par statut. C'est d'ailleurs l'un des embarras dans lesquels se trouvent nombre d'humanitaires qui ont du mal, moi compris naturellement, qui ont du mal à penser, enfin qui ont longtemps, en tout cas moi ce qui me concerne, j'ai longtemps eu du mal à penser cette situation. Je m'en suis, avec le temps, avec l'âge, avec quelques lectures qui ont aidé sans doute, ça va mieux, mais c'est tout de même très difficile parce qu'il y a dans l'engagement humanitaire l'idée d'une sorte de valeur fondamentalement égale de tous les êtres humains. C'est cela que signifie l'épithète humanitaire, hein, l'humanité conçue comme un tout, les êtres humains capables de perfectibilité, une confiance accordée par les humanitaires, je veux parler des philanthropes du 19e siècle, une confiance accordée par les humanitaires à la capacité de l'humanité à s'améliorer. C'est tout cela que désigne l'humanité, l'humanitaire dans au cours de la période où elle n'était pas encore une forme d'action, mais plutôt une posture, une posture intellectuelle, un regard porté sur le monde. Je ne resterai pas là-dessus parce que c'est pas mon expérience, c'est bien évidemment à partir de mon expérience que je veux parler de cela, mais je veux simplement indiquer que entre cet humanitaire, disons, relevant de la philanthropie, du souci social, et l'humanitaire comme forme d'action conduite sous la bannière de principes dits humanitaires, neutralité, impartialité, etc., il y a autant de ruptures que de continuité. Il y a une continuité parce que historiquement, elle est inscrite. La création de la Croix-Rouge, des formes d'action humanitaire, est inscrite dans un esprit du temps qui assure la continuité. Mais la transformation de cette disposition d'esprit en une posture d'action pratique, elle a tendance à, au contraire, écarter, enfin dissocier cet humanitaire, disons, relevant d'un idéal politique et cet humanitaire relevant de formes d'action pratiques. Car dès lors que l'on passe à la forme d'action, il s'agit de sélectionner ceux qui tombent, enfin ceux qui rentrent, disons, dans la catégorie des groupes sur lesquels on va porter un effort et ceux qui en sortent. Donc les notions de neutralité, d'impartialité, qui ont d'ailleurs été introduites longtemps après la création des premières organisations humanitaires, mais ces notions-là servent a priori à établir une distinction juste entre ceux qui bénéficient de l'assistance humanitaire et ceux qui n'en bénéficient pas. Pour autant, rien ne permet d'objectiver ces distinctions. Et par ailleurs, il y a dans l'action humanitaire une distinction fondamentale entre l'acteur et ce que dans le jargon contemporain on appelle le bénéficiaire. Le bénéficiaire, je ne sais pas si ce lexique est familier, si je vois qu'il y a des approbations, le bénéficiaire, c'est, je le signale au passage, comme ça déjà, une formule qui relève de la pétition de principe, puisqu'on suppose déjà résolu le problème qu'on va poser. On veut apporter un bénéfice, on se demande comment on va faire, et puis pof, on a des bénéficiaires. Donc le problème est résolu par une sorte de tour de passe-passe nominaliste. Ils sont là, ils ont tiré bénéfice, donc déjà on a fait quelque chose de bien. Mais nous sommes confrontés donc à toute une série de lignes de partage qui démentent l'idéal d'égalité au nom duquel on peut éventuellement se mobiliser. ligne de partage que l'on constate, comme tu le rappelais dans ton introduction, au sein de la société. Nous n'intervenons pas au sein de sociétés qui proclament l'égalité comme une valeur fondamentale. Nous agissons et nous déduisons les formes de notre action au nom de l'égalité, mais selon des registres qui la démentent en permanence, puisque nous introduisons en permanence des inégalités dans l'action que nous conduisons. Et puis enfin, troisièmement, nous sommes nous-mêmes dans une position qui se veut, existentiellement à niveau de ce que nous venons aider. Mais évidemment, celui qui aide impose ses vues, son pouvoir de description, comme on peut le dire, en sciences politiques, le pouvoir de description étant l'essentiel du soft power, c'est-à-dire le pouvoir qui consiste à dissocier, enfin à tracer la ligne de partage entre l'acceptable et l'intolérable, ce qui relève d'une certaine morale collective supposément partagée par tous et qui nous permet de décider que telle action, enfin telle posture, tel discours est intolérable. Tu citais Dieudonné tout à l'heure. Dieu sait si j'ose dire que je ne suis pas un dieudonniste, mais ce sera même très compliqué pour moi d'être dieudonniste. Mais il est quelque chose d'indiscutable qui est qu'il se situe dans une compétition victimaire qui est d'une certaine manière la lutte pour la première place sur l'échelle de la souffrance. Il ne s'agit pas pour lui de, et c'est d'ailleurs la raison essentielle pour laquelle je ne suis pas dieudonniste, il ne s'agit pas pour lui de suspendre un jugement de priorité ou de hiérarchie face aux souffrances, qui me semble être la seule attitude possible. Il s'agit de contester ce que d'autres estiment être la souffrance maximum, à savoir la souffrance des Juifs sous la Shoah, ce qui est une position dieudonniste inversée, mais une position fondamentalement dieudonniste, entérinée par une loi qui est la loi Guesso, que personne ne semble être... Enfin, peu de personnes, si... Disons, pas grand monde ne semble être volontaire pour l'abolir, pour l'abroger. Bref, on est dans cette situation de recherche de la première place plutôt qu'une situation de recherche de l'égalité. Mais je ne sais plus très bien pourquoi je faisais cette digression sur Dieudonné. Enfin, c'est toi qui l'a mentionné, donc... oui, c'est ça, voilà, l'acceptable et l'intolérable, exactement. On voit comment se déplace, même au sein d'une société, et a fortiori, donc, dans l'espace international, l'espace de la différenciation sociale, la différenciation des sociétés, comment se déplace en permanence cette ligne du tolérable et de l'intolérable, et prétendre détenir la clé qui permet de tracer la ligne que tout le monde va reconnaître comme celle qui départage le tolérable et l'intolérable, c'est prétendre exercer un pouvoir universel qui, de toute façon, se heurte à la contestation de la plupart. Donc je terminerai avec une brève considération sur la manière dont, personnellement, j'ai voulu... aborder ces questions, c'était par le truchement de la détermination de valeurs universelles. L'humanitaire étant par définition universaliste, puisqu'il s'adresse à l'humanité prise comme un tout, je me suis longtemps, comme la plupart de mes confrères, amis, collègues, bercé de l'idée que nous agissions au nom de valeurs universelles. Jusqu'à ce que je me pose la question... et c'est là qu'ont commencé les problèmes, de savoir quelles étaient ou quelles étaient ces valeurs universelles. Tant qu'il s'agit de les affirmer, l'évidence va de soi. Ah, oui, nous agissons au nom de valeurs universelles, l'être humain est universel, les valeurs qui l'animent le sont tout autant. Et puis lorsqu'il s'agit de nommer des valeurs qui pourraient relever de l'universel, on cale l'égalité étant, en faisant partie de celle-ci. La valeur accordée à la vie de tous, si on veut s'élever vers une sorte de métaphysique, une posture métaphysique, c'est de ce côté-là que l'on va chercher. Mais enfin, on la dément quotidiennement. Il suffit d'ouvrir le journal pour voir à quel point cette valeur de la vie est à la fois promue et piétinée tout le temps. Bref, on cale, on est incapable de nommer une valeur qui soit universelle, et l'égalité fait partie de ces valeurs que l'on proclame et qui butent sur cette réalité. Et je pense que c'est un philosophe dont, par ailleurs, je peux contester un certain nombre de ses productions théoriques sur la guerre juste, tout, mais qui est Michael Walzer, qui, je trouve, nous donne une réponse très ramassée, très heuristique, productive, enfin vraiment qui est très féconde, je pense, qui nous permet de dépasser cette notion, cette binarité de l'universel et du particulier ou du relatif, parce qu'on voit bien qu'on n'a pas envie de se trouver dans le camp de Poutine ou du Premier ministre de Singapour, avec les valeurs asiatiques ou les valeurs russes opposées aux valeurs universelles. Mais c'est précisément de cette binarité, me semble-t-il, qu'il faut arriver à sortir. Et c'est par une conception qui relève plutôt d'un certain mouvement dialectique de la pensée qu'il faut arriver à en sortir. Et c'est ce que Michael Walzer nous indique lorsqu'il nous rappelle que toute société humaine est universelle en ce qu'elle est une société, et particulière, est universelle en ce qu'elle est humaine, pardon, et particulière en ce qu'elle est une société. Et que nous ne pouvons penser aucune situation en dehors de cette position à la fois historique et géographique que nous occupons, toutes les sociétés étant historiques, donc voyant les limites qu'elles imposent, qu'elles tracent entre l'acceptable et l'inacceptable, pour le hisser à ce niveau de généralité, voyant cette limite évoluer dans l'histoire. Si je pensais notamment à Dieudonné, c'est aussi parce que je pensais au blasphème, qui a, jusqu'il n'y a pas si longtemps, fait l'objet d'un interdit. Le blasphème est aujourd'hui explicitement autorisé dans une société qui se réclame de la laïcité. Donc on a le droit de tout blasphémer, sauf une chose, la Shoah. Donc on n'a pas le droit de blasphémer. Et on se prend dans cette inégalité absolument fondamentale. Bref, c'est dans cette dualité, me semble-t-il, qu'il faut penser la question d'égalité, comme il faut penser la question de toutes ces valeurs qui ont un potentiel d'universalisation. Et c'est là aussi que je pense qu'il faut se poser pour réfléchir, c'est-à-dire distinguer entre valeurs universelles et valeurs que nous voudrions voir universalisées. Moi, il n'y a aucun doute que j'ai des valeurs, naturellement, comme chacun d'entre nous ici, et que puisque ce sont mes valeurs, je pense que ce sont les meilleures, et que donc elles sont dignes d'être partagées par tous, puisqu'elles sont bonnes et plutôt meilleures que d'autres. Mais je suis obligé, si je veux tenir compte de la réalité du monde, m'inscrire dans un débat, dans une délibération, dans une attitude de respect aussi vis-à-vis d'autres, je suis obligé de me demander pourquoi est-ce que d'autres considéreraient que mes valeurs sont les bonnes, y compris celle de l'égalité, qui est tout au plus un concept, une ligne de fuite, mais pas un constat empirique, comme tu le rappelais très justement dans ton introduction.
Mais est-ce que justement, si on changeait la terminologie, au lieu de dire meilleure, bonne ou mauvaise valeur, on disait valeur opératoire ou pas opératoire ?
Là, je ne pense pas. Là, on se réfugie dans un strict pragmatisme.
Oui, mais c'est une question, hein. C'est une question pour
non,
le débat.
Je pense
hein.
que ça nous désarme totalement. Là, je pense que c'est une façon de déposer toute possibilité, renoncer à toute possibilité de changer quoi que ce soit. Or, nous avons besoin de penser à changer les choses. S'il y a quelque chose qui est fondamentalement humain, c'est l'insatisfaction de ce qui est. Ça, c'est, on ne le pense pas comme une valeur, mais comme un sentiment.
Je pense qu'il y a deux registres. Universel, la paix, la sécurité, la prospérité, justement. La douleur. Oui. Attends, juste non, que je précise ma pensée. OK. Mais l'égalité homme-femme, par exemple, est-ce qu'on peut le penser non pas comme une valeur bonne, meilleure, mais comme une modalité de structuration sociétale opératoire, plus opératoire que le clivage homme-femme?
Ben non, puisque c'est...
Voilà, c'est ça, oui. Non, c'est une question, hein.
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que ça supposerait que c'est une réalité que nous enregistrons à partir de laquelle nous... Enfin, c'est tel que je le comprends. Peut-être que je ne comprends pas bien ce que tu veux dire, mais ce que je comprends dans ce que tu veux dire, c'est que nous prenons acte d'une réalité et qu'avec elle, nous travaillons.
Oui.
Mais cette réalité...
Hiérarchie, il ne faut pas l'occulter. Moi, je reviendrai tout à l'heure dans la discussion générale sur les idées de Louis Dumont, l'englobement du contraire dont tu as parlé tout à l'heure, parce que c'est, je pense, une idée centrale, vraiment dans le type de construction pour laquelle on a travaillé. Mais de toute façon, nous avons passé, il le dit très clairement, Dumont, dans ses essais sur l'individualisme. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Il dit, de toute façon, notre temps a esquivé le problème de la hiérarchie et donc à construire des types d'explications qui, en fait, ne permettent pas d'aller au fond de la question. Il y a un problème de hiérarchie homme-femme. Il faut travailler ce problème et ne pas esquiver ce problème avec des explications qui, de toute façon, à un moment donné, vont réapparaître et comme on le voit sur le problème de l'école actuellement, ne font que compliquer une situation qui est déjà en soi délicate. Hein, donc,
Véronique voulait intervenir depuis tout à l'heure. Là.
Pardon.
Les gens qui sont revenus à l'ANMI, cette médicale
d'accord.
internationale, avec le sentiment d'avoir été totalement manipulés. C'était pas
oui.
prévu
Attends,
dans
mais...
la liste, si j'ai bien écouté la liste.
Oui.
Et je pense qu'on n'est pas toujours tout puissant, quoi qu'on se représente son action.
Mais Rony a été un des acteurs principaux de cette dénonciation en Éthiopie dans les années 80. Hein.
Non, mais c'est pas ça, c'est pas une attaque.
Non, mais tout à fait.
Dans la liste-là, il manquait le fait qu'on occulte le fait qu'on peut être parfaitement manipulé et parfaitement impuissant. Inefficace, c'est une chose, mais utilisé dans un sens inverse de ce qu'on pense faire.
Oui, ça, tout à fait. Non, c'est extrême. C'est une des questions, un des enjeux de l'action humanitaire, de l'aide en général, d'ailleurs, pas spécialement de l'aide humanitaire. Mais juste pour, je pense que c'est un peu, disons, latéral par rapport à notre sujet de journée. Mais par rapport à la liste, si je le mets, moi, si je l'envisage d'une autre façon, c'est parce que d'abord, je pense que la manipulation, pour reprendre ce terme un peu provoque, on pourrait dire l'utilisation politique ou l'instrumentalisation, disons, de manière un peu neutre, mais c'est la même idée quand même. La manipulation n'est pas une sorte d'accident fâcheux ou d'effet pervers de l'humanitaire ou de l'aide. La manipulation est la condition même de l'existence de l'aide. Si on n'est pas manipulable, c'est qu'on ne présente aucun intérêt pour les pouvoirs qui nous accueillent, et alors on ne voit pas pourquoi ils nous accueilleraient. Donc nous prenons place dans un champ de force politique, c'est dans cet agencement-là que nous pouvons agir. Donc l'instrumentalisation est une condition de l'action avant d'en être un accident, disons. Alors c'est une question de niveau, donc, pardon.
Oui, non, mais on est absolument d'accord, mais j'avais envie que ce soit
D'accord, oui, bien sûr, non, mais tout à fait.
L'autre point qui me paraît très important, et alors là, c'est un peu tous les deux, mais surtout toi, Stéphane, qui vient de mettre en avant, c'est l'idée qu'il y a des valeurs universelles, par exemple l'appel à sécurité. Je ne suis pas du tout certaine que l'appel, l'absence de conflit, soit une valeur universelle. Et je pense que c'est quelque chose, que avoir cet a priori-là nous empêche en partie de penser un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a des sociétés pour qui la guerre est une valeur.
Voir son fils tué, non. Voir son fils tué à la machette, non. Non.
Non,
non, ça je peux te dire non.
Attends, c'est pas les conséquences de la guerre, mais mener des actions violentes et l'emporter.
Oui, mais pouvoir vivre sans avoir son fils massacré à la machette, je peux te dire que c'est quelque chose que j'ai rencontré aux quatre coins du monde. Après qu'il y ait d'autres registres.
Je pense que c'est. Ce genre de démarche ne peut pas nous mener trop loin. Si on ne tient pas compte de la complexité de l'esprit humain, de notre division permanente, de notre fonctionnement, avec de la balkanisation de nos esprits, comme dit Paul Venn, on ne peut pas. Nous sommes en permanence le siège d'un tumulte de pensées.
Tout à fait.
Et effectivement, on n'a pas envie de voir son enfant découpé à la machette. Mais on peut ne pas avoir cette envie-là et découper un autre enfant.
Découper, tout à fait, mais avec
à la majette. Mais et en étant conscient que cet autre enfant pourrait être le sien.
Absolument, mais il y a une sédimentation.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas exclure. Enfin, on ne peut pas dire a priori telle valeur est universelle et l'absence de telle chose est une valeur universelle. On ne peut pas exclure. Les sociétés sont diverses. L'histoire.
Dominique.
Non, mais... voilà. La complexité humaine est universelle, c'est-à-dire que partout il y a cette possibilité de vouloir tuer son enfant en même temps que de ne pas vouloir le voir tué par un autre, ça nous arrive à tous, ça fait partie de l'inconscient. Moi je suis de ceux qui tiennent que l'inconscient est quelque chose d'universel. Voilà, il tient au langage, il tient comme nous parlons, nous partageons ça tous, j'en suis persuadée. Ce que je crois, c'est qu'il y a une partie de libre arbitre néanmoins. Nous subsiste malgré tout, ou alors on ne peut plus penser du tout à une évolution quelconque dans un certain sens, qu'on peut appeler un progrès, mais en tout cas quelque chose qui va une amélioration des conditions de vie pour tous. Voilà, d'une certaine façon. Nous ne sommes pas tous des Eichmann en puissance, c'est ce que disait Anna Arendt, et je crois qu'elle avait raison, la maladie du monde, du mal, nous disait ça très bien. C'est-à-dire qu'il y a un petit moment de libre arbitre qui fait que qui est la nôtre, d'aimer la guerre ou de la vouloir ou d'être dans le pouvoir, simplement échapper au pouvoir. On le voit tellement en ce moment, les politiques animées des meilleures intentions versent dans le pouvoir et l'enrichissement personnel, par exemple, qui nous désole. Enfin bon, est-ce qu'on ferait autrement, je ne sais pas. Il y a une espèce de libre arbitre qui fait qu'il y a quelque chose là qui peut se jouer. Oui, d'une pensée universelle du bien commun. Je crois vraiment. Ça veut pas, il ne faut surtout pas dénier, je suis d'accord avec vous, ce que vous avez dit, mais l'instrumentalisation fait partie absolument de l'accord. De tout, dans tous les sens. Voilà. Donc si on a une espèce de réflexion et de connaissance et de conscience, une espèce de fragilité face à ça, on peut garder cette idée que le bien commun est quelque chose qu'on peut défendre.
Moi, je dirais que toutes les sociétés produisent une idée du bien commun, mais que ce sont des idées différentes. Donc le concept de bien commun est sans doute universel. La pratique d'un bien commun, elle est différenciée. Mais sinon, pour le reste, je vous suis tout à fait. Mais là, je pense que c'est important d'arriver à dissocier ça. Il n'y a pas de morale universelle, mais toutes les sociétés, ce qui est universel, c'est la production d'une morale. Mais ces morales sont différenciées. Elles sont différenciées dans l'histoire, dans la géographie, elles évoluent dans le temps, et elles ne sont pas toutes. Elles ne produisent pas les mêmes conceptions du bien et du mal.
La guerre, je crois qu'on a raison.
Pardon.
Alors, ça ne différencie pas les sociétés, à mon sens, suffisamment. Enfin, je ne sais pas si vous avez pu entendre. Je crois que la guerre est quelque chose de très répandu quand même. Alors,
Marie-Hélène Patoumatis, la préhistorienne qui est intervenue dans Regard il y a quelques années, vient de sortir un livre sur la préhistoire de la violence et de la guerre, où elle défend la thèse que cette violence et cette guerre sont très nettement liées à la sédentarisation, partout. Et qu'auparavant, les communautés humaines étaient trop éloignées les unes des autres, et qu'on n'a pas de traces archéologiques, véritablement, de violence et de guerre. Ce n'est que lorsque...
Elle est un peu contestée. Moi, je trouve que... Enfin, je connais un peu son travail aussi. Elle est un peu contestée, dans le sens où
elle est contestée, oui, elle est contestée.
Semble-t-il, des traces de massacre. Il y a des traces, il y a des charniers qui ont été retrouvés, et qui ne peuvent pas être autre chose. Ce n'est pas un cimetière, où on faisait ramasser des corps, c'est... très vraisemblablement des massacres, mais c'est l'exception.
C'est l'exception, voilà, c'est ça.
Donc là où elle a...
Mais son livre...
Mais c'est elle, enfin, c'est l'origine de la famille, la propriété de l'État, hein, c'est l'origine de la sédentarisation, la propriété privée, c'est la guerre.
Jacqueline voulait intervenir. Là,
on est dans un
Jacqueline
grand classique.
Olivier.
Moi, je voulais revenir à... Bon, je suis contente que vous ayez parlé de Michael Walzer, parce qu'en fait, c'est vrai que lui, en parlant d'égalité complexe, par rapport à une égalité simple et en renvoyant à des sphères spécifiques, il essaie de sortir au moins d'un schéma universel. Et bon, lui, comme Amartya Sen, je pense que ce sont des personnes qui ont fait avancer, déplacer le problème au moins, en essayant de voir sur les compétences, sur l'humain en lui-même et sur leurs compétences propres. Donc il y a...
Olivier, Jean-Marie et puis Étienne.
Sur l'égalité, quand même, est-ce qu'on peut, vous avez bien souligné qu'elle pourrait conduire à un totalitarisme détestable, mais comme tout concept, à la limite, comme tout instrument, tout outil peut déformer, mais cependant, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a une qualité de progrès d'une certaine façon, on peut considérer que ce n'est pas un progrès. Enfin, quand l'égalité vous permet de lutter contre l'esclavage ou la ségrégation, certains pays, certains, vous connaissez beaucoup mieux le monde que n'importe qui ici, on peut vous démontrer que ce n'est pas un concept qui est considéré comme un progrès. Bien au contraire, c'est une réalité qu'ils acceptent tout à fait volontiers. Pour le bien commun des humains, est-ce que ce n'est pas quand même à travers cette conception de l'égalité et donc de la lutte contre l'esclavage et la ségrégation qu'on fait un progrès? Alors on peut après le qualifier plus ou moins important, mais donc est-ce qu'il n'y a pas quand même derrière certains concepts une évolution qui est positive? On n'est pas quand même dans un système on ne peut pas évoluer. Si on ne peut pas évoluer, alors là, c'est terminé.
Je ne veux pas du tout monopoliser, puis moi je ne me sens pas du tout en position d'autorité pour répondre. Je participe à la discussion, c'est tout. On a besoin de fiction, on a besoin de se raconter des histoires, c'est avec ça qu'on progresse. Là-dessus, je vous rejoins tout à fait. Donc la fiction de l'égalité est une fiction productive, et puis elle n'est pas totalement de l'ordre de la fiction. C'est comme, pour le dire dans les termes de Raymond Aron, l'égalité existentielle peut être une affirmation qui n'a rien d'une fiction, qui est affirmer qu'au sein d'une société... la valeur de chacun ne peut pas être différenciée a priori, c'est ça qu'on entend plus ou moins par valeur existentielle, égalité existentielle, ça c'est de l'ordre d'une décision collective, d'une construction politique, ça devient une réalité. Et là je vous rejoins tout à fait ce que vous disiez. En revanche, je pense qu'il ne faut pas prêter à l'idéal d'égalité, au slogan, au drapeau politique de l'égalité des vertus qu'il n'a pas. C'est pas en son nom que l'esclavage a été aboli. Il y avait bien d'autres raisons qui l'emportaient sur l'argument de l'égalité. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que l'abolition de l'esclavage ne voulait pas dire un statut d'égalité. On restait un sujet de l'Empire, mais un sujet émancipé de l'esclavage. En tout cas, si l'on se réfère au texte sur l'esclavagisme et au grand mouvement de anti-esclavagistes du 18e et du 19e, il n'était pas animé par cet idéal d'égalité, en tout cas certainement pas dans une acception moderne.
L'égalité, c'est quelque chose qui est impossible à totalement obtenir, vous l'avez souligné, mais c'est une étape vers, vous l'avez bien vu d'ailleurs avec l'abolition de la ségrégation ensuite, enfin, il y a toute une évolution qui n'en est que le prolongement. Enfin, il fallait
ça sur ce plan-là. Mais c'était quand même un chemin qui était tracé.
Une utopie.
Oui.
Mais pour...
Si, parce que lui,
pour
laisser quand même un petit peu de marge à Augustin, on va prendre Jean-Marie et puis Étienne, et puis après on va passer.
En fait, je pensais au travail de John Dewey sur la fabrique des valeurs, et pour le coup, de ramener les choses du côté du processus, comment se fabriquent les valeurs. Chose que je voulais, je ressentais là, en tout cas dans les prises de propos, c'est que j'entends que ça nous touche profondément, c'est-à-dire qu'on a besoin absolument, enfin, on dit absolument, j'y crois, enfin, on a besoin là, sur ces idées-là, de certitude, c'est-à-dire on sent qu'on vient toucher quelque chose de profond. Donc pour le coup, il y a une manière de. Le débat est mis en passion, quoi. C'est le préalable. Troisième point. Moi aujourd'hui je m'interroge beaucoup, j'ai beaucoup travaillé sur la question des discriminations, j'étais très impliqué dans ce travail-là, j'y suis toujours, mais j'ai choisi d'y être autrement. Je me suis rendu compte que, très bizarrement, finalement quand on allait travailler la question des discriminations en ramenant le principe de l'égalité de droit et comment on devait être attentif pour le coup à ce principe-là pour regarder dans les faits là où il y avait une égalité de fait. C'était une fin... passer par ce chemin-là était une façon de faire, mais il y avait aussi d'autres chemins qui concernaient le fait de pouvoir, dans les faits, rendre les gens les sortir de cette situation d'inégalité. Et c'est autre chose, c'est bizarrement autre chose. L'exemple que je donnais tout à l'heure, il y a une collègue qui a travaillé la question de port du voile au Blanc-Mesnil, qui était une de mes étudiantes, et pour le coup, qui a sorti cette histoire-là, qui a fait une question au gouvernement de Marie-Georges Buffet, et qui a réanimé finalement cette histoire-là en décembre, hein, ça s'est passé par là. Et donc elle l'a abordée sous la question de la lutte contre les discriminations. Hein. Et là, aujourd'hui, quand je travaille à Melun sur cette histoire du passage entre les grands fers, la naturalisation et donc la discrimination de ces personnes-là dans leur carrière professionnelle, en leur ramenant sur la question de comment on fait que leur carrière change. Là, pour le coup, je ne travaille pas la discrimination, mais comment je fais dans les faits changer leur situation. Il semble qu'il y ait un chemin praticable. Pour le coup, je trouve ça étonnant, enfin, par rapport à notre discussion. C'est-à-dire, je m'interroge. Hein. Mmh.
Je pense que ça, Gus va peut-être l'aborder directement sur lui.
Est-ce que peut-être juste pour...
je ne sais pas si
je vais l'aborder, mais... mettre de enfin, comment dire, peut-être repassionné ou passionné, enfin, un peu plus encore la discussion. Moi, il me semble que ce qu'il y a d'abord dans un discours sur les valeurs, que ce soit l'égalité ou autre chose, mais l'égalité particulière, se prête particulièrement à ça, c'est un discours de pouvoir. Et cet antagonisme-là, il faut le saisir, cette dualité-là, il faut le saisir. J'affirme ceci est une valeur. Et j'énonce donc ma position de domination qui me permet de le faire. Et le deuxième point, et d'ailleurs, enfin, c'est très, très lié, sur la question du voile, je renvoie à ce qui est dit, est-ce que la question du voile renvoie au libre arbitre des femmes ou au pouvoir des hommes ? C'est une... sans doute, y a-t-il des cas qui relèvent de l'une ou de l'autre de ces catégories. On peut pas, je ne veux surtout pas généraliser. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que dans le discours public, la question du libre arbitre est totalement écartée. Donc on intériorise une inégalité fondamentale, on en fait une sorte d'argument de pouvoir. Et je retrouve là le point que je disais. Il y a des femmes qui veulent porter le voile.
Et surtout sur le cas de présent, c'est ce qui était important, enfin, pour l'avoir suivi dans les faits, c'est que ces femmes-là, elles étaient en lutte. C'est elles qui luttaient. C'est ça le plus important dans le travail.
Oui.
C'est leur lutte.
Oui, voilà.
Et c'est absolument leur manière de rentrer en lutte. Et c'est ça qu'elles ont rencontré en fait dans leur cheminement, c'est-à-dire elles ont rencontré le corps enseignant et des enseignants qui étaient très porteurs de la valeur de l'égalité, mais qui en même temps n'acceptaient pas leur lutte. C'est-à-dire que ce qu'elle disait, nous on veut être présents dans l'école.
Voilà. L'enseignant disait voilà quelle est la bonne lutte et exactement. Voilà quelle est la mauvaise lutte.
Voilà. Voilà. Et elle disait nous on veut être présents dans
position
l'école
de pouvoir.
Pour s'occuper de nos enfants dans l'école. Mm. On leur disait non, vous ne pouvez pas rentrer parce que vous êtes voilés.
Mm. Voilà. Oui. Oui, mais bon, à question.
Et donc elles ont dit puisque ce n'est pas notre école, nous retirons nos enfants.
Elle continue à lutter contre l'inspecteur d'académie, justement, c'est l'inspecteur d'académie qui visiblement ne, il y a une demande à notre gouvernement dans cette académie que qu'elle soit acceptée dans l'école, et en fait l'inspecteur d'académie qui va partir à la retraite fait résistance à sa hiérarchie en disant non, moi je refuse qu'elle rentre dans l'école, même dans les écoles où c'est a été décidé par les enseignants.
Ouais. Le pouvoir.
C'est le pouvoir. Effectivement, j'accepte effectivement cette conjonction des deux.
Dans ces échanges, il y a un problème qui est celui des visions du monde qui sont mobilisées par les uns et par les autres. Et derrière la question de l'universel ou de l'universalité, il y a la notion même d'universel. L'unique qui est en fait la valeur fondamentale en fonction desquelles notre tradition judéo-chrétienne, mais judéo d'abord, je vais revenir là-dessus, a pensé le monde et organisé les rapports de pouvoir, de décision, dont tu as si bien parlé. Une des alternatives qui a été proposée par un certain nombre de chercheurs, c'est de plus parler d'universel, mais de plurivers. Hein, non pas d'univers, mais de plurivers. De penser, de se donner les moyens de penser la pluralité des mondes avec une terminologie qui nous oblige à n'accepter l'unité que là où elle est véritablement, où elle s'impose d'évidence. Et elle s'impose dans notre discussion. J'ai très, très heureux de revoir quelque chose sur lequel moi je travaillais quand j'enseignais les fondements anthropologiques des droits de l'homme à l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg. J'ai fait ça pendant une décennie, 90. C'était assez, assez passionnant, parce qu'il y avait 700, 800 personnes qui venaient là. C'était des missionnaires des droits de l'homme, et ils venaient, et puis il fallait leur expliquer que toute notre discussion qu'on vient d'avoir, c'est la complexité de l'humanité. Et donc, moi je leur disais, il y a une seule valeur, peut-être, qui peut être considérée comme universelle, c'est la dignité, l'exigence d'une dignité qui façonne notre humanité. Tout le reste, ensuite, s'inscrit dans une pluralité de mondes, et ce sont ces mondes qu'il va falloir essayer de rendre complémentaires, parce qu'il faut travailler la complémentarité des différences, là où notre héritage philosophique gréco-romain chrétien, avec Aristote en particulier, nous a fait penser le monde en termes d'opposition, en termes de la logique des contraires. Et c'est ça, alors je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans, peut-être qu'on va écouter Gus, et puis je reviendrai dans cette explication un peu compliquée de Louis Dumont sur l'englobement du contraire. Mais en même temps, c'est absolument passionnant, parce que Louis Dumont a proposé au début des années 80, un cadre qui nous permet de comprendre comment nous-mêmes nous laissons piéger par cette facilité qui est de réduire le monde à deux ensembles et à penser l'autre comme le contraire de l'un. Alors, au nom de quoi pensons-nous? C'est ça, c'est là-dessus que je voudrais conclure. En fait, il n'y a que notre civilisation judéo-christiano-moderno, etc.
Pourquoi toujours judéo-chrétienne?
Comment
j'ai, juste comme ça au passage, mais pour le plaisir de la discussion, pas parce que c'est un peu hors sujet. Mais pourquoi judéo-chrétienne? Pourquoi est-ce que tu reprends à ton compte ce qui me semble être un poncif.
Non, mais j'y arrive.
Parce qu'il n'y a pas de judéo-christianisme.
C'est bien en pensant à toi que j'ai employé le mot, et donc pas par provocation, c'est parce que j'y arrive. Notre civilisation est d'héritage monothéiste, nous le savons. Mais Paul Venn a montré, et je trouve cette idée extraordinairement passionnante, que ce monothéisme que nous héritons des Juifs a été précédé dans l'expérience juive par un autre monos, et qu'il appelle la monolâtrie, qu'il oppose à l'idolâtrie. C'est le culte du un seul. Ce culte du un seul, il est tellement inscrit, je dirais presque dans la génétique de notre histoire mémorielle et institutionnelle, que nous n'avons plus la capacité de le mettre à distance et de le critiquer. Or, c'est pourtant cette monologie qui est le cœur même de toutes les contradictions en fonction desquelles nous sommes incapables d'intégrer l'autre, de le penser, non pas dans ce que nous voudrions en faire en l'intégrant dans notre propre histoire, mais en respectant l'ensemble des virtualités qu'il représente et les complémentarités que nous pouvons construire ensemble. C'est ça. Donc ce n'est pas une provocation simple, c'est quand même la remise en perspective historique de quelque chose. Et Paul Venn dit donc, avant d'être monarchiste avec les Maccabées, avant d'être monothéiste, il remonte à 3 ou 4 siècles plus tôt, avant, vers le 15e siècle avant Jésus-Christ, les Juifs ont affirmé ce culte du un seul, cette monolâtrie. Et il faut que nous la discussions.
Parmi un ensemble de dieux dont ils reconnaissaient l'existence, voilà, ils en choisissaient un qui était le leur. C'est ça le truc.
Donc
il y avait un polythéisme juif et une monolâtrie. Mmh. Et Paul Venn nous amène à conjuguer les deux, justement. À ne pas opposer l'un à l'autre.
Non, j'essaie de ne pas opposer, j'essaie de.
Non, j'ai bien compris, je vais dans ton sens. Non, tout à fait, je ne sais pas du tout pour contredire.
Bon, mais je pense qu'on ira pas plus loin pour l'instant. On pourra peut-être.
Alors, on essaie quelque chose, c'est d'enregistrer. On va voir ce que ça va donner. Et si jamais ça marche et que vous êtes d'accord, on le mettra peut-être sur le site. Si vous refusez, vous me le dites. Et puis après, on effacera ça. La NSA n'aura pas.
Bien, bien. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors. Et pas de conclusions qui ont été tirées. Donc c'est bon. Bon, en fait, donc, Stéphane m'a un peu défié d'une certaine manière en disant, du point de vue du mouvement altermondialiste, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'égalité. Donc j'ai accepté ce défi et je me suis replongé.
C'était
un peu.
Quand même le thème du débat. Hein. Tu nous as interpellés avant tous sur égalité, équité, qu'est-ce qu'il faut promouvoir.
Oui, non, c'est pas moi qui vous ai interpellé, c'est le Forum Urbain Mondial.
Voilà, il faut remettre dans le contexte.
Donc, qui va avoir lieu à Medellín en avril. Et les Nations Unies, UN Habitat, a sorti un concept paper, ils ont appelé ça un concept paper, sur la question de la situation urbaine, dans lequel ils ont mis en avant notamment la question des inégalités. Ils ont accepté le principe que la situation urbaine mondiale était réellement caractérisée par la montée des inégalités et les conséquences dramatiques de cette montée des inégalités. Et donc à partir de là, ils ont construit un discours qui porte d'abord sur l'idée que pour répondre à l'inégalité, il vaut mieux mettre en avant l'équité que l'égalité. Voilà. Et donc nous sommes rentrés dans cette discussion pour contester l'idée que l'équité suffisait à lutter contre les inégalités. Voilà, je résume. Pour ceux que ça intéresse, nous avons sorti une déclaration, la déclaration de l'ETEC, enfin, disons, qui est en cours de discussion et qu'on peut vous envoyer et qui, effectivement... Ben, justement,
c'est
donc l'équité n'est pas vraiment totalement définie dans la définition du concept paper. Bon, on peut penser qu'il se réfère plutôt aux propositions de Rawls, en disant que effectivement l'équité est une conception qu'on pourrait caractérisé en disant c'est une justice naturelle, universelle, qui n'est pas inspirée par des règles de droit. Voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que c'est plus la régulation que l'imposition d'un droit qui permet de définir l'équité par rapport à l'égalité. Donc c'est un peu l'équité, c'est un peu l'égalité des chances, d'une certaine manière, par rapport à l'égalité des droits. Voilà, c'est un peu...
Mais c'est la donc sélectivité.
C'est...
Par rapport à l'universalité de l'égalité, c'est la sélectivité, en fait. Je pense. Si l'égalité renvoie à une proportionnalité, on se compare à d'autres, tandis que l'équité, c'est par rapport à une personne, ce qui revient à chacun.
Oui, c'est ça. Mais en fait, disons, nous, notre contestation, notre discussion sur cette idée équité plutôt que égalité, c'est de comprendre pourquoi il y a ce refus de l'égalité. Pourquoi il y a cette minoration de l'égalité par rapport à l'équité. Bon, c'est un peu ça le thème. Mais en fait, compte tenu de la question, de la manière dont tu avais posé la question, c'est pas comme ça que j'ai... que j'avais préparé mon intervention, ma proposition, enfin, de réflexion, c'était par rapport comment l'égalité, quel rôle joue l'égalité dans le mouvement intermondialiste aujourd'hui, c'est-à-dire en partant du principe que le mouvement intermondialiste, il est contradictoire, il est en gestation, hein, et que donc il ne donne pas une... Et il ne donne pas une proposition un peu comme un dogme sur voilà ce qu'il faut faire, mais il est en train de se construire. Enfin, bon, on peut espérer en tout cas, enfin, comme tout mouvement. Ben, et donc je voulais un peu expliquer comment l'égalité s'est introduite dans cette discussion. Enfin, c'est ce que je voudrais proposer. Effectivement, ce débat sur l'égalité et l'équité, c'est une des conséquences de cette gestation plutôt que le point de départ. Donc je voulais vous proposer quelques hypothèses de réflexion justement sur la montée de l'égalité ou la manière dont l'égalité est prise et discutée dans le mouvement altermondialiste aujourd'hui. Donc il faut un peu revenir sur le mouvement altermondialiste évidemment et sur ce qui le caractérise parce que ça va un peu expliciter. Disons, le mouvement altermondialiste, il se définit à peu près dans les années 80. Et il se définit par rapport à la phase de la mondialisation capitaliste que nous vivons, c'est-à-dire ce qu'on appelle indifféremment capitalisme financier ou néolibéralisme. Et il se définit d'ailleurs en plusieurs étapes. Une première étape, ce sont les luttes dans les pays du Sud contre l'ajustement structurel. En gros, c'est un peu le départ. Ensuite, c'est les luttes contre la précarisation et la remise en cause de l'État social un peu... Et troisièmement, et puis contre notamment les institutions internationales et notamment l'Organisation mondiale du commerce, comme manière de. Comme institutionnalisation de cette phase de la financiarisation. Et puis ensuite, à partir de l'année 2000, il prend la forme de ce qu'on appelle les forums sociaux mondiaux, qui ne recouvrent pas d'ailleurs l'ensemble du mouvement intermondialiste, mais qui l'explicitent à certains moments. Donc c'est un peu ça le. Et alors, je me suis un peu posé la question, comment caractériser ce mouvement par rapport à d'autres mouvements? Ben, l'idée, c'est que l'idée du mouvement intermondialiste, c'est la convergence des mouvements sociaux et citoyens. C'est un peu ça qui le définit, la convergence des mouvements sociaux et citoyens. Et pourquoi et où arrive cette idée de mouvement? Et c'est assez intéressant parce que justement, elle naît à peu près dans deux endroits très différents. En Amérique latine, dans les Chiapas, c'est à partir des Chiapas que, effectivement, pour la première fois, émerge cette idée que les mouvements doivent mener la lutte contre le néolibéralisme, etc. Et en Asie, quelque chose qui est beaucoup moins connu, mais qui est très passionnant, en 1984, il y a une réunion à Hiroshima, à l'occasion de l'anniversaire de la première bombe atomique, et il y a plusieurs personnes qui sont là, dont... deux Japonais qui sont Muto Ishio et Yoko Kitazawa, qui avaient invité les autres mouvements asiatiques, et puis un homme assez remarquable qui est mort il y a quelques mois, malheureusement, qui s'appelle Vinod Rena, qui est un Indien qui a créé le mouvement All Science People Democracy, qui regroupe 700 000 personnes quand même en Inde, ce qui n'est pas mal. Et effectivement, et ces gens ont... qui étaient là à Hiroshima, ont dit « Il faut créer une alliance globale des peuples. » Et puis ils se sont posés la question « Mais qui va créer cette alliance globale des peuples ?» Ce n'est pas les partis, ce n'est pas les ONG, ce n'est pas les associations. Ils ont dit « C'est les mouvements. Voilà. » Ils ont dit « Finalement, ceux qui peuvent porter l'expression des peuples, pas la représentation, l'expression des peuples, ça peut être les mouvements. » Et donc, on est arrivé à cette idée des mouvements... et qui a eu beaucoup de conséquences, notamment dans la construction du mouvement altermondialiste et dans son essai de définition d'une nouvelle culture. Et notamment, une idée tout à fait fondamentale, c'est l'idée de la diversité. C'est-à-dire qu'au cœur de cette question des mouvements, il y a la question de la diversité et la question de la convergence. Et dans la question de la diversité, c'est une question théorique, c'est pas une question. Et comment elle est venue dans le mouvement intermondialiste, c'est très intéressant. Je crois que c'est le mouvement des femmes qui a permis de l'expliciter le mieux. Parce qu'effectivement, comme vous savez très bien, quand les femmes ont dit, au moment de la Révolution française, les droits des femmes, on leur a dit, écoutez, attendez, peut-être dans un deuxième temps, quant au moment des mouvements sociaux, du mouvement ouvrier, les femmes ont dit, et les droits des femmes, on leur a dit, ah, il y a une contradiction principale et des contradictions secondaires. Bon, au moment de la décolonisation, quand les femmes ont dit, et les droits des femmes, on leur a dit, attendez, ne divisez pas le peuple. Bon, et donc, finalement, le mouvement des femmes s'est construit sur l'idée, nous ne sommes pas une contradiction secondaire, et nous ne subordonnerons pas nos droits à d'autres droits. Et tous les mouvements ont dit ça. En fait, c'est ça la diversité. Donc c'est d'une certaine manière une forme théorique de réponse à la période précédente sur la contradiction principale, le mouvement principal, etc. Voilà. Donc ça, c'est un peu un élément très très fort dans la construction du mouvement intermondialiste, qui explique que d'ailleurs, quand il y a des décisions, ce qui est rare, elles sont prises au consensus. Bon, le consensus n'étant pas le fait d'être d'accord, mais le fait que ceux qui ne sont pas d'accord laissent passer par rapport à ceux qui sont d'accord. Hein, donc c'est un jeu qui prend beaucoup de temps, évidemment. Mais, et surtout, l'idée que des nouvelles formes de rapport entre les mouvements et le politique, et notamment dans la charte de principes des formes sociaux mondiaux, il y a l'article 2 qui dit « Personne n'a le droit de parler au nom de tout le monde ». Personne n'a le droit de parler au nom de tout le monde. Alors ça nous a beaucoup divisé d'ailleurs, effectivement, parce que une partie des mouvements disait donc on n'est pas politique. Si on ne fait pas de déclaration, c'est qu'on n'est pas politique. Bon. Et donc il a fallu beaucoup de temps, et donc certains ont dit on va faire une internationale à côté. Enfin bon. Donc le mouvement est très contradictoire et très vivant. Hein. Et nous sommes arrivés à un moment donné à une idée, qui a permis de vivre quelques années, c'est que personne n'a le droit de parler au nom de tout le monde, mais tout le monde a le droit de parler à partir du forum. Et donc, effectivement, on est arrivé à ces assemblées de convergence dans lesquelles les gens parlent, mais en leur nom, mais à partir du forum. Donc c'est toute une discussion sur cette quité de la diversité qui reconstruit un peu, et l'idée que la diversité, c'est l'égalité entre les mouvements inégaux. Voilà. C'est un peu ça le principe de construction du mouvement et de la convergence des mouvements. Alors, à un moment donné, il a fallu se poser la question, mais quel est l'objectif stratégique, finalement, que l'on peut se fixer à partir du moment où on a été capable de réfléchir en termes de pensée stratégique? Puisque la question de tout mouvement, c'est à un moment donné, quel est le débat stratégique au sein du mouvement? Bon, alors, la première forme de la stratégie est assez simple, c'est effectivement comment répondre à l'urgence, améliorer les conditions de vie, etc., par rapport à des perspectives dans lesquelles on ne répond pas que par l'urgence. Voilà, bon, sachant que l'humanitaire est en plein... a été toujours confronté à cette question. Et donc, effectivement, il y a l'urgence... Et donc, il y a des tas de mesures qui sont proposées, etc. Mais il y a surtout l'idée de dans quelle perspective stratégique on se situe. Et à ce moment-là, c'est petit à petit imposé l'idée que finalement, c'était l'accès aux droits pour tous et l'égalité des droits. Bon, je ne rentre pas dans la distinction et le passage de l'accès aux droits pour tous à l'égalité des droits. Bon, pour ceux qui sont intéressés, je fais un livre qui s'appelle « Une stratégie altermondialiste » dans lequel j'essaye de développer ça très longuement. Mais c'est un peu ça l'idée. Et en fait, d'une part, ça a été porté par, on s'est rendu compte, les propositions des mouvements se situaient toujours par rapport à des droits. Et d'autre part, la culture des droits est devenue de plus en plus une culture commune au niveau des mouvements. Et ça, c'est pas seulement dans le mouvement intermondialiste, c'est de manière générale. Par exemple, effectivement, le mouvement syndical international, maintenant, définit ses luttes par rapport aux droits reconnus par l'OIT, aux quatre droits reconnus par l'OIT. Un certain nombre de mouvements humanitaires sont passés de l'humanitaire d'urgence au droit à la santé. Amnesty International est passé de la torture au droit économique, social et culturel. Donc on voit comment, effectivement, dans chacun des mouvements, il y a une réflexion et un développement d'une culture de l'accès aux droits pour tous et de l'égalité des droits. Donc c'est comme ça que l'égalité est devenue... Alors, effectivement, deuxième approche sur cette question de l'égalité, c'est la manière dont le mouvement analyse la situation dans laquelle il est et ses avenirs possibles. Et dans lequel... Bon, je vais aller très vite parce que sinon... parce que ça, c'est dans le petit papier qui est là, disons. En gros, il y a quatre grandes contradictions auxquelles on fait face. Et dans chacune de ces contradictions, la question de l'accès aux droits est posée. Bon, il y a la question, effectivement, sociale. Bon, ça c'est clair, je veux dire. Bon, mais qui est de plus en plus la question des inégalités. Enfin, disons, le social vit à partir de la question des inégalités sociales, avec un élément nouveau qui apparaît, mais je reviendrai un peu là-dessus après. Il y a la question géopolitique, disons, avec la question de la crise de la décolonisation et des nouvelles phases possibles de la décolonisation, donc comme deuxième grande contradiction. La troisième grande contradiction, c'est la question idéologique, avec la question, effectivement, et culturelle, notamment la question de la réponse à l'insécurité par des idéologies sécuritaires, disons. Bon, ça, c'est un peu l'élément tout à fait clé, dans lequel on retrouve la question de l'égalité, mais ça, je reviendrai peut-être à la fin. Et la quatrième question, qui est une question totalement nouvelle, c'est évidemment la question écologique. Bon, question écologique... que Braudel a très très bien défini en disant pour la première fois dans son histoire, comment disait-il déjà, l'économie monde, l'organisation du monde est entrée en contradiction avec l'écosystème planétaire. Et c'est une première dans l'histoire de l'humanité, c'est ça. Donc c'est effectivement, ça implique une nouvelle manière de penser. Donc c'est un peu les quatre. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce que les mouvements ont dit ? Ils ont dit... d'une certaine manière, dans un premier temps, c'est une crise du néolibéralisme. Bon. Et puis, très vite, il y a eu un débat, est-ce que c'est une crise du néolibéralisme ou une crise du capitalisme ? Bon, ça, c'est toujours récurrent. Mais dans un deuxième temps, la question écologique a entraîné à dire, c'est une crise des modes de production et de consommation, donc une crise du système dominant. Et dans un troisième temps, et c'est là que c'est très intéressant, c'est à Belém en 2009, après l'ouverture officielle de la crise de 2008. En 2009, à Belém, il y a toute une série de mouvements qui étaient présents depuis le début, mais qui ont pris une très grande importance, le mouvement des femmes, le mouvement écologiste, les mouvements écologistes, les mouvements paysans et les mouvements des peuples indigènes. Et c'est... ces mouvements ont porté le débat en disant « Mais attendez, est-ce que vous écoutez bien ce que vous êtes en train de dire ? Vous dites qu'il faut revoir, la crise est telle qu'il faut revoir les rapports entre l'espèce humaine et la nature. Mais ça, c'est une crise de civilisation. Ça, c'est une crise, et c'est une crise de la modernité occidentale qui remet en question, y compris une partie ou certains des éléments de la science contemporaine. Ben, donc là, voilà à peu près comment les mouvements se sont un peu appropriés l'analyse de la situation. Et alors, par rapport à cette analyse de la situation, dans les contradictions, il y en a une qui est apparue dans tous les derniers mouvements et dans toutes les mobilisations populaires, et qui est un élément nouveau d'une certaine manière, c'est la question de la corruption. Si vous regardez tous les mouvements actuels, que ce soit en Inde, que ce soit en Turquie, que ce soit n'importe où, vous voyez bien que la question de la... Mais la question de la corruption n'est pas une question uniquement de morale. c'est une question plus fondamentale, au sens, enfin, je ne sais pas si c'est plus fondamental, parce que ce n'est pas moral, mais enfin disons, c'est une question qui met la morale au niveau du cœur de l'analyse de la situation, parce que ça consiste à dire, enfin pas à dire, mais à, je pense que en fait, on aboutit à une situation de fusion du politique et du financier. Et cette fusion du politique et du financier annule l'autonomie du politique d'une certaine manière. Donc on n'a plus confiance dans le politique. Donc il y a, d'une certaine manière, et ça je pense que c'est un élément très très important, la corruption comme élément à la fois social, idéologique, géopolitique, est devenu un élément tout à fait important. Alors par rapport à ça, comment réfléchissent les mouvements? Ben, ça s'est passé en gros à Rio, il y a quelques mois, enfin il y a un an à peu près, pour Rio plus 20. En gros, on s'est retrouvé avec une proposition de sortie de crise assez classique. C'est aller plus loin dans la financiarisation et passer à la financiarisation de la nature et de la marchandisation du vivant. Et donc effectivement, on se retrouve dans la proposition un peu dominante aujourd'hui. Et effectivement, elle a des conséquences du point de vue des droits. C'est que ça a été très malheureusement intéressant à Rio, c'est que est arrivée l'idée que les droits, une affirmation trop forte des droits, c'est pas l'élimination de la référence droit, mais une affirmation trop forte des droits est un frein à l'expansion du marché. Et donc, de ce point de vue, il faut... Et il y a eu toute une bataille qui a été menée pendant la conférence de Rio sur cette idée-là de dite l'économie verte. Hein. Par rapport à ça, il y a deux autres réactions qui sont intéressantes. Une première réaction, c'est une réaction dans l'establishment, d'une certaine manière, de modernisation du système, y compris capitaliste, disons, sans problème, mais, et qui est menée par un certain nombre de gens très reconnus, comme Krugman, Stiglitz, Amartya Sen, etc., consistant à dire, bon, on va dans le mur, il faut quand même de la régulation publique internationale, voilà, bon, et de la redistribution. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le Green New Deal. Bon, mais évidemment, beaucoup de mouvements sont d'accord pour participer à ça, parce que c'est une amélioration des... Si on peut avoir de l'emploi, si on peut avoir un peu de revenus, pourquoi pas, hein, y a pas de raison de s'en priver, évidemment. Mais en tout cas, cette fraction de la classe politique internationale n'est pas dominante, n'a pas de pouvoir. Hein, au contraire. Bon, et ça rappelle d'ailleurs que le New Deal a été adopté en 1933, mais n'a été mis en œuvre qu'en 1945. Donc ça veut dire qu'on est dans une période de contradiction et de flou. Et dans les mouvements, la proposition qui est arrivée par rapport au refus de la financiarisation et à une certaine méfiance ou attente par rapport au Green New Deal a été l'idée de la transition écologique, sociale et démocratique. Et elle repose sur des nouveaux concepts en gestation. Les biens communs, le buen vivir, la radicalisation de la démocratie, la démocratisation radicale de la démocratie, enfin bon, la gratuité, enfin il y a toute une série de... Il y a un paquet là, en bouillonnement. Ce paquet en bouillonnement, c'est très passionnant parce que nous avons créé à quelques-uns ce qu'on appelait un intellectuel collectif international des mouvements sociaux, ça c'était une petite révérence à Gramsci et Bourdieu, mais l'idée c'était, on se rend compte que quand on part de ces concepts, une grande partie de ces concepts, on a la question en quelque sorte de la traduction. Comment on co-construit à partir de plusieurs cultures? Parce que, bon, alors on le sait, hein, empowerment, on ne peut pas le traduire en français, service public, on peut le traduire en anglais, mais ça ne veut pas dire la même chose du tout. Enfin bon, on sait très bien tout ça. Mais les nouveaux concepts, eux, sont issus de cultures totalement différentes. Par exemple, comment on traduit Pachamama? Ben oui, non, mais justement, c'est... on ne peut pas le traduire si on ne prend pas en compte la culture qui a porté cette idée. Ce n'est pas les droits de la nature, ce n'est pas la terre-mère, c'est pas... Bon, disons, c'est exactement... Bon, comment on traduit « bon vivir » ? Prospérité sans croissance, vivre autrement, etc. Comment on traduit Fencheng en chinois, c'est-à-dire le changement radical, etc. Donc il y a toute une série de nouveaux concepts qui sont, eux, justement, échappent d'une certaine manière à l'universalisme dominant et à sa manière de s'exprimer. Voilà un des défis tout à fait passionnants auxquels il faut que... Bon, alors... Excusez-moi parce que je ne veux pas... Donc, il y avait deux autres points que je voulais souligner. Le premier, c'est le mouvement intermondialiste, nous le définissons comme un mouvement historique, comme un mouvement historique qui prolonge et renouvelle les mouvements historiques précédents. Il prolonge et il renouvelle le mouvement ouvrier, il prolonge et il renouvelle le mouvement de la décolonisation, il prolonge et il renouvelle le mouvement des droits civils et politiques, etc. Bon. Et d'une certaine manière, chacun de ces mouvements est porteur de générations de droits et renouvelle aussi les droits tels qu'ils étaient perçus auparavant. Bon, le mouvement des droits civils et politiques, ben, c'est la génération des droits civils et politiques. Le mouvement ouvrier et le mouvement, c'est l'ensemble des droits sociaux, des droits économiques, sociaux, etc. Le mouvement de la colonisation, c'est les droits des peuples. Mais effectivement, par exemple, si on prend les droits des peuples, ça renouvelle le débat sur le droit collectif, droit individuel. Donc chacun des mouvements chacune des périodes d'émancipation peut être caractérisée à partir de là. Donc voilà un peu comment se réapproprier ces mouvements et comment se poser la question: quelle est la nouvelle génération de droits en gestation? Droit écologique, évidemment, droit de la terre, alors droit de la terre-mère, je sais pas quoi, enfin droit de la nature, droit par rapport de l'espèce humaine par rapport à la nature. Vous voyez, c'est vraiment en pleine discussion, mais c'est quand même une des questions. Droit de la souveraineté, souveraineté alimentaire, toute une série de choses comme ça. Les droits, les nouveaux droits de la décolonisation par rapport à toute une série de problèmes, l'accaparement des terres, enfin toute une série de. D'éléments, des droits. Donc, effectivement, quels sont les droits qui sont en gestation et de quelle émancipation sont-ils l'expression ? Enfin, voilà un peu une des propositions de réflexion. Bon. Mais, effectivement, Étienne, tu avais raison, c'était ce que disait souvent Madame Robinson, c'est la dignité qui est au cœur des droits. Non. Au cœur de tous les... Il y a la question de la dignité au cœur de tous les droits. Bon. Je ne sais pas si c'est universel ou pas, mais en tout cas, ça, c'est clair. Et, bon. Et donc, l'égalité...
Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça.
Non, mais très bien.
Bah, non, mais comme je n'ai pas eu l'occasion de le dire tout à l'heure, il ne faudrait pas qu'il y ait une sorte de faux consensus. Bon.
Alors, non, mais en fait, je pense que, à mon avis, au niveau de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on retrouve bien cette idée que la dignité est une condition nécessaire. Nous dirons, c'est vraiment une condition nécessaire. Mais maintenant... se pose la question qui est vraiment posée très souvent par beaucoup de gens: est-ce que les droits sont universels? Est-ce qu'effectivement l'approche par les droits est, et même l'approche par les droits est-elle universelle? Est-ce que dans un certain nombre de cultures, bon. Alors c'est là que se pose une question très compliquée. D'abord, faut-il un universel? Bon, et peut-être que ce serait plus facile si on acceptait l'idée que l'universel n'est pas forcément éternel. Parce qu'effectivement, l'idée de l'universel, c'est qu'il s'impose à tout le monde, et presque de tout temps, je dirais. Bon, évidemment, c'est faux, c'est ce que tu as dit d'ailleurs, l'universel. Et puis tu as dit même à un moment donné, le concept est universel, les pratiques sont spécifiques. Bon, et donc, il y a de la construction d'universel, il y a de la co-construction. Alors, comment le co-construire ? Pour le co-construire, pour construire l'universel à partir justement de l'élément nouveau que, dans lequel nous sommes, il faut déconstruire l'universel dominant. C'est-à-dire, il faut déconstruire l'universalisme occidental. Bon, là, je vous renvoie à un petit livre qui est un petit bijou de Wallerstein qui s'appelle l'universalisme européen, et dont le sous-titre c'est « De la colonisation au droit d'ingérence », et qui est une discussion qui est très intéressante sur l'histoire, justement. Donc il pose la première question, qui a le droit d'ingérence, qu'a-t-on le droit d'imposer aux autres, et là il repart, et d'ailleurs chaque fois que je parle de ça, je te cite par rapport à une discussion qu'on a, un exposé que tu avais fait ici, dans lequel tu avais reparlé des primitifs et des barbares, et donc effectivement ce que dit Wallerstein, il dit enfin l'universalisme occidental s'est construit autour de trois défis. Premièrement, qu'a-t-on le droit d'imposer aux autres? C'est pour ça qu'il revient à Valladolid, etc., à la controverse. Deuxièmement, comment répondre aux défis de la civilisation? Parce qu'à un moment donné, au début, il y a les primitifs. Bon, c'est assez simple. Voilà. Bon, il faut les sauver. Bon. Puis après, évidemment, la civilisation occidentale rencontre d'autres civilisations, dont il reconnaît quand même que ce sont des civilisations et pas des primitifs. Ils ont des États, ils ont des bureaucraties, ils ont des cultures, ils ont des langues, etc. Bon. Et donc, effectivement, par rapport à ça, il invente l'orientalisme. C'est-à-dire, ce sont des civilisations qui étaient des grandes civilisations, mais elles se sont arrêtées. Et donc maintenant, il faut les remettre en marche dans l'histoire. Enfin, en gros, c'est à peu près ça. Et troisièmement, probablement le plus important, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans un débat, la science. La science comme universelle. Qui implique d'ailleurs de pouvoir différencier la science des sciences humaines. Je vous conseille ce livre parce qu'il est vraiment tout à fait passionnant.
Tu peux répéter le titre?
L'universel européen de Wallerstein.
Universalisme.
Oui, l'universalisme européen. Pardon, l'universalisme européen.
Et l'auteur alors?
Oui, je cite. Bon, alors effectivement. Au cœur des droits, pour l'instant, il y a l'égalité comme un concept, comme un concept opératoire. C'est-à-dire, effectivement, c'est pas une valeur, c'est pas la valeur universelle forcément, mais effectivement, c'est ce que l'on retrouve au croisement de chacune des éléments. Et aujourd'hui, la question de l'égalité. Elle est confrontée à deux questions. La première, c'est effectivement le deuil du soviétisme. Voilà. L'égalité construite comme valeur, c'est ce que disait Rony tout à fait au début, l'égalité construite comme valeur imposée par l'État pour construire le socialisme, effectivement, c'est il faut en reconnaître l'échec et on n'en a pas encore fait le deuil. Et ça c'est une question tout à fait fondamentale. Et en liaison avec ça, l'offensive contre l'égalité qui prend la forme au départ d'une offensive contre le socialisme qui a été très bien définie par Carter autour de l'idée marché plus démocratie, voilà, c'est ça la réponse à l'égalité, c'est marché plus démocratie. Et de plus en plus, démocratie de marché. Enfin bon, la limite après, on voit. Mais c'est aussi une offensive contre l'égalité en tant que valeur. En France, ça a commencé avec le Club de l'Horloge, dans les années 70. Je me rappelle que une petite quinzaine, nous avions créé un club du réveil, pour répondre au club de l'horloge, avec notamment ceux qui ont créé Logisti, Claire Rodi, toute série, c'était surtout des gens d'immigration. Mais effectivement, on a échoué, lamentablement. C'est-à-dire qu'effectivement, le club de l'horloge l'a emporté, avec l'idée que finalement, l'inégalité est structurelle, et l'inégalité est scientifiquement prouvée, et que finalement on est pauvre parce qu'on est fragile, et on est fragile parce que c'est génétique. C'est un peu ça et c'est quelque chose qui a très bien marché, et qui construit actuellement, vous savez, il y a une formule que je trouve magnifique qui est une formule de Gramsci, qui est « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Il avait dit cette phrase en prison, en 32-33, je crois. Et donc, effectivement, on voit bien comment on lutte contre les... Bon, eh bien, effectivement, on voit comment s'est construit cette nouvelle idée de... Bon. Alors, on a, pour l'instant, ce qu'on a, c'est lutter contre l'inégalité. Voilà. Bon, ça, c'est quelque chose... Donc, ça, c'est pas l'idée au nom de la valeur de l'égalité, c'est le refus de l'inégalité, refus de l'inégalité qui est porté, d'ailleurs, par toutes les mobilisations... Et qui sont des mobilisations, justement, depuis 2011, toutes les mobilisations depuis 2011 sont en même temps le refus de l'inégalité, le refus de la corruption, le refus du manque de liberté et le refus du manque de souveraineté, je dirais à peu près. La question de l'écologie, elle est moins directement apparente. Hein. On la retrouve à plein d'endroits, on la trouve au Parc Gézi, à Istanbul, etc. Mais elle n'est pas non plus aussi centrale que le sont les autres revendications. Et donc, effectivement, il y a ce refus des inégalités, mais en même temps, il y a aussi l'idée que, pour lutter contre les inégalités, on ne va pas attendre un État sauveur. Ce qui explique pourquoi les formes d'organisation, de mobilisation, prennent des formes politiques souvent éphémères. Si l'on prend les indignés, si l'on prend les Occupy, etc., c'est d'ailleurs des formes urbaines. C'est très intéressant parce que c'est l'occupation de la place publique, d'une certaine manière. On occupe la place publique. Mais on n'est pas en demande qu'un État vienne mettre en œuvre l'ensemble de ces éléments. Donc, effectivement, on est dans cette idée, l'égalité... c'est-à-dire en tout cas la lutte contre les inégalités et en même temps la revendication de spécificité et le refus de la du différentialisme. Bon, on le voit très bien, c'est-à-dire que quand on fait des propositions de type différentialiste, comme dans un certain nombre de cas, il y a un refus au nom d'une revendication d'une forme d'égalité... Et donc, voilà un peu cette idée-là sur la situation actuelle. Donc, voilà pourquoi. Alors, je comprends très bien ce que tu disais, Stéphane, au début. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une valeur opératoire? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas dire, en lutte, l'égalité, c'est pratique parce que ça permet de répondre à la question des inégalités. Donc, on la retient comme... Mais c'est vrai que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut regarder... et il faut préciser, d'ailleurs, d'une certaine manière, aucune valeur toute seule ne suffit à définir une nouvelle voie. Voilà. Bon. Parce que, c'est la construction d'un projet qui repose sur plusieurs valeurs. Au début, c'était liberté, égalité. Fraternité est venue après, mais liberté, égalité. Donc, il y a à chaque fois un projet. Et donc, le problème qui est posé aujourd'hui, c'est quel est le projet qu'on peut mettre en avant, dans lequel il y aura l'égalité, mais pas seul. Voilà ce que je veux dire.
Bon, écoute, merci. Oui, donc vous avez tous pris les textes. Pour ceux qui sont arrivés tout à l'heure, si vous n'avez pas votre adresse mail, si vous ne recevez pas un regard, merci de le mettre avant de sortir.
Jean-Marie. Je voulais surligner un élément du propos qui me semble important, parce qu'en fait il y a quelque chose qui a été introduit dans la discussion qui me semble mettre les choses sous un autre angle. C'est l'idée que quand on travaille sur la question de l'égalité, on part quand même d'une réalité qui est la société n'est pas égale. Donc on est, pour le coup, on utilise l'égalité comme un support, un levier pour produire la société. Et que quand on aborde les choses sous l'angle de l'inégalité, on est dans la réalité vécue par les individus et on cherche le processus pour faire changer les choses. Et il me semble que là, il y a une distinction dans les processus qui me permettent de repérer le fait de l'importance finalement de la production des valeurs. Non, je me suis trompé, la fin, c'était pas ça. Vous coupez le bout là à la fin. C'était, sinon, je voulais juste souligner ça. C'était l'idée de le droit pour changer la société. Donc il est en avance finalement sur l'état du monde et la chose que tu évoques qui est les luttes pour l'inégalité qui, elles, doivent se construire en s'appropriant aussi la question de comment elles vont changer le monde et par où elles vont changer. Qu'elles n'attendent pas que le monde change. Il me semble qu'en distinguant ces deux approches, on introduit quelque chose de nouveau dans la discussion.
Elles peuvent être complémentaires d'ailleurs. L'égalité et l'équité, on les a toujours opposées, mais finalement elles sont complémentaires. Si on peut penser l'égalité comme objectif à atteindre, l'équité comme moyen pour atteindre cet objectif.
Oui, je disais le mot équité. Hein.
Oui,
l'égalité et inégalité.
Oui.
René voulait intervenir.
Oui, moi, parmi les quelques remarques que je voulais faire, il y avait aussi celle-là, effectivement, équité, égalité ne se pensent pas nécessairement l'une contre l'autre. Puisque, par exemple, les mesures de, mal nommées de discrimination positive, ce sont des mesures qui sont destinées à rétablir une forme d'égalité à partir d'un constat d'inégalité, donc qui amène à rompre un droit commun pour précisément le retrouver. Enfin, dans l'idée, en tout cas, de le retrouver ultérieurement. Donc, l'équité peut être aussi posée dans cette... Mais ce que le point essentiel que je voulais dire, moi, là où je me sépare vraiment des altermondialistes, et d'ailleurs d'une partie du mouvement des ONG, c'est dans cette vision... dans ce processus de juridicisation du monde, de ce que moi j'appelle une vision juridico-morale du monde et que j'oppose à une vision historico-politique, disons pour faire un peu d'opposition binaire, même si c'est toujours réducteur et trompeur, c'est pas aussi simple que ça naturellement, mais tout de même les différentes strates, les couches de droits qui se sont empilées, dont je parle brièvement dans mon papier, les droits civils et politiques, les droits économiques et sociaux, et puis ensuite toute une sorte de prolifération, une arborescence de droits, les droits de l'enfant, les droits de la femme, droits à l'environnement, droits au développement, droits, etc. Tout ça est pensé comme une sorte d'harmonieux développement, alors que, d'une part, ce sont bien souvent des droits qui entrent en collision les uns avec les autres et que la pensée politique, c'est précisément la pensée conflictuelle des droits et non pas la pensée complémentaire, cumulative, incrémentale des droits. Je rappelle que si on avait jugé, si on avait pris position face à la guerre d'Espagne à travers, comme on le fait très souvent aujourd'hui, la grille des droits de l'homme, à travers une évaluation des droits de l'homme, on aurait peut-être pris au départ position pour les fascistes. Parce que les actions des Annars en 36 en particulier, c'était notamment de détruire des églises avec des curés sociaux et des enfants dedans. C'était des actions de terreur qui consistaient aussi à tuer des prisonniers au petit matin, etc. Bref, tous les... ce qu'on considère comme des droits ou du droit humanitaire a été vraiment piétiné. Donc tout ça pour dire que les droits doivent être aussi envisagés dans les tensions qui se nouent entre eux et pas comme une sorte d'élargissement et d'approfondissement permanent, ce que le mouvement altermondialiste, par son ardeur à cumuler des droits, mais là je ne distingue pas altermondialiste et mouvement des ONG dans leur majorité, ce que donc on a tendance à faire dans une sorte de vertu, enfin d'empressement vertueux, un peu distrait me semble-t-il, parce que totalement fermé aux contradictions, la première d'entre elles étant d'ailleurs, et je trouve que c'est ça l'intérêt de la devise républicaine, liberté, égalité, avant fraternité qui vient effectivement en 48, si je sais, mais liberté, égalité sont deux aspirations qui sont en collision l'une avec l'autre et dont la tension permet de penser le politique, nous permet de nous penser. Et voilà. Et juste une remarque en deux mots pour ne pas monopoliser la parole. mais qui est complémentaire de ça. Est-ce qu'on peut penser, est-ce qu'on peut se donner des outils qui nous servent à penser le monde exclusivement en termes de droit, en laissant de côté, et à plusieurs reprises dans ton exposé, tu y as fait allusion, mais à mon avis, sans aller jusqu'au bout, en termes de, on ne peut parler que de droit et non pas d'interdiction ou d'obligation. C'est aussi dans ce calcul-là qu'on pense le monde. Un certain nombre d'actions des multinationales, d'actions de prédation des multinationales ne peuvent pas être envisagées sous l'angle des droits de chacun à y résister, mais sous l'angle de l'interdiction de faire un certain nombre de choses. Et ce qui vaut pour les multinationales vaut aussi pour d'autres. Et on a l'impression qu'une bonne partie de la réflexion sur l'égalité et la justice s'interdit de penser le monde avec les catégories de l'obligation et de l'interdit, ce qui me semble être une faiblesse fondamentale.
Est-ce que Étienne, ou tu veux répondre ?
Oui, moi je veux bien répondre, mais peut-être que d'autres veulent intervenir avant, et puis je répondrai. Et tu voulais pas dire quelque chose sur la dignité ?
Oui, oui, je veux dire, non, mais je voulais pas. Non, mais si c'est toi qui me relances. je viens. Oui, je pense que la dignité relève des mêmes critiques, des mêmes appréciations que les autres notions, les autres candidats à l'admiration universelle, à savoir la variation et les contradictions de sens dans le temps et dans l'espace. Et donc c'est une notion tout aussi incisive. La dignité telle qu'on la comprenait dans le lointain passé, qui était un statut social, élevé à la dignité d'évêque ou de stratège ou de magistrat. La dignité des femmes vue par un taliban, c'est une notion extrêmement forte. Nous, occidentaux, pour le dire vite et de manière que j'assumerai pas totalement, malgré tout, mais disons, pour avoir, on traite les femmes de façon indigne en les exposant comme des objets sexuels à l'appétit de tous. Enfin, donc, je ne crois pas qu'on puisse en faire quelque chose de plus consistant, de plus substantiel que d'autres. Et au contraire, pas au contraire, mais dans la même foulée, j'y vois un usage guerrier, dominant. Voilà ce qui relève de la dignité, voilà ce qui me donne des droits, moi, à m'imposer à vous, parce que je sais ce qu'est la dignité et donc son contraire, son ignorance.
Et je rajouterai la dimension extrêmement moralisatrice du terme dignité. Parce que qui dit
elle est toujours
indigne, indigne, c'est. Moi, je partage tout à fait l'analyse de Ronnie par rapport à l'extrême relativité de cette notion de digne et d'indignité. Et pour justement les Bushmen, c'est le concept de dignité en milieu Bushmen n'a rien à voir et sans commune mesure avec. Et si on applique notre grille de lecture de la dignité, ils sont fondamentalement indignes et on justifie la hiérarchie que les Botswanais leur imposent. Mais bon, ça c'est un autre débat. Tu voulais intervenir sur autre chose ?
Non, mais de toute façon, continuer sur cette idée, c'est que chaque culture a sa conception de la dignité et chaque société diffère quant aux applications et à la manière selon laquelle elle traite ces choses. Et il est absolument évident qu'il n'est pas possible de transférer la conception que nous avons de la dignité, évidemment, que les Grecs avaient de la dignité, que les Romains avaient de la dignité, que n'importe quelle société avec ce que. Mais par contre, cette revendication à l'idée d'une dignité, moi, dans toutes les cultures africaines dans lesquelles j'ai travaillé, je l'ai trouvée, mais elle n'en est aucune façon à exclure toutes les formes de hiérarchie, d'exploitation, de rapport d'esclavage, de servage, etc., qu'il y avait aussi dans ces sociétés.
Excuse-moi, Étienne, mais pourquoi est-ce que tu sembles chercher quelque chose que tout à l'heure tu critiquais, au contraire ? C'est-à-dire cherches un univers, là, alors que nous encourageais à y renoncer.
Je cherche simplement ce qui, dans chaque culture, traduit l'idée d'humanité. L'idée d'humanité traduite dans chaque culture, pour moi, c'est la dignité de l'homme, chacun le voyant d'une manière différente. Voilà, c'est.
Quand on pose la question aux Tunisiens, pourquoi vous vous êtes révolté,
derrière, il y a une chose, là, je voulais prolonger la réflexion de Ronnie. sur les excès de la juridicisation de tout ce discours dans lequel on joue avec des catégories que l'on ne maîtrise pas forcément très bien, des droits 2 à des droits A, des droits de première génération, deuxième génération, troisième génération, etc. Tout cela, ça me paraît être parfois un peu trop formaliste, parce que le vrai problème me paraît être non pas du domaine de la juridicité, mais du domaine des rapports de pouvoir. Et que c'est ce domaine-là des problèmes, de plus en plus, dans mes travaux sur les politiques foncières, j'abandonne l'idée de parler de droit et je parle de maîtrise, hein, de forme d'expression de pouvoir avec ce que cela peut impliquer et qui recoupe ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Marcel Sten, l'idée de capacité, hein, de pouvoir minima reconnu à chaque être humain et qui lui permet d'être membre de la société et d'assumer l'ensemble des droits et obligations, mais d'abord des obligations qu'il a assumées au sein de la société. Autre chose aussi, et là je serai beaucoup plus bref, c'est que quand tu as parlé de ce vocabulaire commun qu'il va falloir construire à l'échelle planétaire.
Je n'ai pas dit vocabulaire commun. De savoir comment traduire des concepts nés dans des cultures différentes. Oui. C'est quand même.
C'est l'espéranto de l'altermondialisme.
Non, mais comment construire une nouvelle approche pluriculturelle.
Une notion comme bien commun. Et apparaît comme une évidence, mais est une monstruosité pour un juriste. Et on a eu l'occasion de travailler il y a une dizaine d'années avec Survie en particulier, parce que en droit, bien veut dire une chose qui est éminemment aliénable, discrétionnairement éminente. Mmh. Et commun, c'est exactement son contraire. Donc on réunit deux termes. L'un dit le bien, c'est ce qu'on peut vendre, et l'autre, c'est ce qu'on ne peut pas vendre. Comment peut-on utiliser une terminologie qui s'annule avec deux termes qui sont contradictoires l'un par rapport à l'autre ? Alors, sans doute que la conception du juriste n'est pas partagée par l'économiste ou par le financier, etc. Mais il n'empêche que ça pose des sacrés problèmes d'incompréhension potentielle en se traduisant trop rapidement. Alors, à l'époque, on s'était mis d'accord sur l'idée qu'on pourrait parler de le bien commun. Et puis, on abandonnait l'idée des biens communs pour parler éventuellement des richesses communes, ou des ressources communes, ou des choses comme ça. Ça permettait de réduire l'incompréhension. Mais ces incompréhensions, elles risquent d'être multiples. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler dans cette terminologie.
Enfin, le bien commun, c'est aussi quelque chose que chacun peut consommer sans pour autant compromettre la possibilité de la consommation d'un autre. Par exemple, la lumière. D'un réverbère, si tu en profites, tu n'en prives pas quelqu'un d'autre. Donc même sur le plan juridique, il me semble que ça tient quand même. Non,
parce que les deux mots, chacun ont une définition qui contredit l'autre. Et commun, ce qui ne peut pas être directement
en droit. En droit.
Ah oui, mais
c'est ce qu'il a dit.
Ce que je veux dire, c'est que.
Ce qui nous rappelle que les juristes vivent dans un monde enchanté, un monde à eux.
Mais. Mais ce sont quand même des pièges. À un moment donné, il y a des problèmes qui vont se retrouver en justice et on va avoir des catégories qui vont être mobilisées qui ne pourront pas être reconnues. Parce que le langage du droit s'y opposera. Donc c'est tout un travail d'identification de l'ensemble de ces pièges pour construire progressivement un langage partagé.
C'est un travail qui est en cours. C'est pour ça que je vous disais que c'était en gestation et contradictoire, y compris. Parce que pourquoi est-ce que le bien commun est devenu quelque chose qui a trouvé place C'est parce que c'est la manière de parler de la propriété dont on était complètement exclu. C'est-à-dire que dès qu'on parlait de propriété, on était dans un espace dans lequel on était totalement conflictuel. Bon, et donc le bien commun est apparu, et ça passait d'ailleurs par les biens publics au départ, et puis après bien commun, est apparu comme une manière de pouvoir discuter de la question de la propriété. Enfin vraiment, et c'est comme ça que c'est pris. Et donc effectivement, on n'en est pas encore à la période à l'étape juridique. Bien qu'il y ait notamment au niveau des écologistes beaucoup de réflexions qui sont très intéressantes sur les biens communs, toujours du point de vue de la propriété par rapport à la question de la gestion de, d'un certain nombre de rapports avec la nature. Enfin, hein? L'eau, oui, mais l'eau, l'air, enfin, bon, le climat.
Je reverrai les références du bouquin qu'on a publié là-dessus.
Oui, non, mais je sais. Non, non, mais je veux dire, donc, c'est pour ça que j'explique, je dis que ce sont des concepts en cours de. Bon, alors, Renie, bon, sur la dignité, je pense qu'en fait, moi, quand je disais qu'au départ, il y a la dignité, c'est parce que les luttes partent en général de la remise en cause de la dignité. Et de la conception de la dignité qu'on a, hein, évidemment, que les gens ont. Et après, il y a une discussion, d'ailleurs, qui fait qu'une fois que les luttes commencent à se déployer, elles amènent à préciser ce que veut dire la dignité, et, y compris les contradictions et les conflits entre les formes de dignité. Hein. Bon, on le voit bien avec les talibans, enfin bon, ça. Donc je pense que ça, c'est... Donc effectivement, l'idée que les droits sont fondés quand même sur la revendication de dignité, donc pas sur la... l'appellation de la dignité, sur la revendication de dignité, ça, je pense que c'est quand même quelque chose... Enfin, bon.
Ben moi, juste un temps, parce que je pense qu'il y a toute une logique derrière ça. Là où je peux retrouver, je pense qu'il est possible d'employer le mot dignité, c'est uniquement, et ça vaut pour d'autres notions ou valeurs, c'est uniquement dans la révolte contre le fait que cette notion est piétinée.
Oui, c'est ça.
Donc, non, je voyais bien qu'on n'était pas très loin là-dessus. Oui. Mais donc, c'est moins une revendication de dignité qu'une protestation contre une atteinte à la dignité.
Oui, c'est ça. Mais
c'est la même chose que la lutte contre les inégalités et la lutte pour l'égalité, c'est là que ça se revoit. Et donc là, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans des sentiments communs et que ce sont des notions... qui, c'est ça, exactement. Ce sont des notions d'empathie, d'aversion, en tout cas qui relèvent du sentiment et de sentiments partagés. Et là, je pense que moi, ce que j'aime bien dans cette notion de sentiment, c'est qu'on les voit universalisables. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui révoltent tout le monde, mais qui ne donnent pas lieu, l'universalité des sentiments ne donne pas lieu à l'universalité des projets et des notions. Et c'est cette dissociation entre les deux qui me semble devoir être pensé, parce que c'est là qu'on peut atteindre des démarches communes, des choses comme ça.
Bon, alors, il y a une autre... Alors, justement, parce que c'est un peu ce que vous disiez, c'est la question de l'importance de la lutte pour... comme une étape de... donc, dans un des papiers que je vous ai envoyé, parce que j'avais fait un papier sur la démocratie mondiale. Bon, et donc, effectivement... Donc, tout le premier papier, c'est de dire que la démocratie mondiale, c'est intéressant, mais bon, comme une perspective, bon. Et ça part d'abord du principe qu'on est dans des situations dans lesquelles il n'y a pas de démocratie. Donc, ça, c'est le premier élément. Et la manière d'y aller, c'est les luttes pour la démocratisation. Donc, effectivement, on réintroduit l'idée que les luttes pour font partie de la définition de. Bon, mais juste pour terminer, je dirais alors, bon, je ne me retrouve pas dans la critique que tu fais du mouvement intermondialiste, bien qu'une partie du mouvement, certainement, mais enfin, c'est toujours la partie dans laquelle on est qui n'est pas... Non, mais parce que c'est un grand débat qu'on a.
Oui.
Bon, l'idée, c'est que cette démarche par les droits, bon, comme j'étais un peu porteur de cette idée d'objectif stratégique, j'étais très critiqué par rapport à ça, et donc je disais que en fait... l'approche par les droits n'abolit pas le politique, parce que justement les droits sont contradictoires, et que dans la démarche des droits n'est évidemment pas une démarche linéaire, et comme je le disais, à chaque fois il y a un retour, les nouvelles générations de droits revisitent complètement les droits précédents en fonction de l'évolution de la situation et spécifique et générale, hein, bon. Et justement le politique, c'est aux politiques que revient la question de définir une manière de répondre à la contradiction entre les droits. Bon, pareil, on le voit tout le temps, hein, entre le droit de vivre et travailler au pays et la liberté de circulation, bah, c'est vrai qu'il y a une contradiction. Bon, donc c'est aux politiques de définir, à un moment donné, quelles sont les propositions que l'on fait par rapport à ça.
Mais voilà. Aussi, distinguer entre droits... souhait, oui, aspiration, non, mais,
et y compris tout, en 1792, tout le débat entre droit et devoir, qui est à reprendre probablement, effectivement, et je suis bien d'accord que la question des obligations. Mais enfin bon, ça c'était simplement pour dire, mais je dois dire que pour moi, d'ailleurs c'est la moitié de mon livre est là-dessus, le défi principal du mouvement altermondialiste ou des autres mouvements, c'est la redéfinition du rapport entre pouvoir et politique. Voilà. On est là, on en est là, et c'est ce qu'on explore.
Un constat qui m'inquiète, moi, depuis quelques temps, qu'on travaille dans les lieux où on réfléchit, hein, qui sont beaucoup de psychanalystes, hein, c'est un peu décalé par rapport à ici, mais c'est la crainte que nous voyons dans la judiciarisation avancée des rapports sociaux. Et c'est-à-dire que, d'abord, la loi n'est pas forcément appliquée, c'est que la loi a été dictée et elle peut ne pas être appliquée. Donc le rapport de la loi et du droit, là, c'est compliqué. Et la judiciarisation va dans le sens d'une espèce d'autonomie, comme ça, d'individualisation de chacun, dont j'y ai droit, dont je vais me défendre, voilà. Et que effectivement, ça va à l'encontre, enfin, de ce que vous disiez, M. Bourman, de l'interdit et du permis, c'est-à-dire quelque chose, oui, de l'autorité, qui n'est pas du droit. La judiciarisation, c'est vraiment une parcellisation, un éclatement à nos yeux des rapports sociaux, et ça fait, puisque j'y ai droit, je le fais, quoi. Donc c'est tout et n'importe quoi, et on va à des choses. Effectivement, là, la question alors de l'éthique, on va peut-être dire, quelque chose qui est très à la mode quand même, ce mot d'éthique. Mais c'est aussi l'autorité, c'est politique. Enfin, c'est ces questions qu'on a à dire des choses socialement, globalement, qui ne doit pas permettre à chacun de défendre un droit. Enfin, quelque chose comme ça. Alors c'est très difficile à soutenir. Là, on se fait huer quand on dit des choses comme ça. Mais il y a quand même une inquiétude de ce côté-là.
Je la partage.
Par rapport au droit.
Un petit truc sur la discussion que vous avez eue tout à l'heure entre vous deux, c'était de. Il me semble que, en me situant plutôt du côté non pas de l'égalité, mais comment, face à l'inégalité, on cherche à faire évoluer les situations, qu'on ne peut pas tout attendre de la dimension du droit, c'est-à-dire pour le coup. De l'appareil judiciaire, enfin, tout ce qui va venir avec une situation de droit, son énoncé, sa construction, sa mise en œuvre, le fait qu'il y ait des gens qui vont dire là, le droit n'a pas été pris en compte, etc. Et la dimension politique, c'est-à-dire qu'on sait qu'à un moment donné, s'il y a des choses qui vont changer dans les actes, dans les faits de la vie des gens, c'est bien parce qu'en même temps, il y a eu une action politique, c'est-à-dire qu'il y a bien eu aussi lutte et puis vérification en permanence que ce droit-là qu'on avait énoncé, justement, c'était pas resté, c'était pas dans la lettre une loi qui était votée, mais c'était aussi un acte. Et donc, je pense qu'il faut vraiment être vigilant, en tout cas, que les deux restent couplés, qu'il se passe effectivement quelque chose dans la vie des gens.
Je voudrais juste citer deux auteurs qui me semblent être intéressant à utiliser pour penser ces questions. L'un, c'est Franz De Waal, qui est un éthologue, je ne sais pas si son nom dit quelque chose. Ici, c'est un éthologue américain, un primatologue, en fait, qui s'interroge sur la question des sentiments moraux chez les animaux. Alors, ça peut sembler un peu désobligeant comme démarche. Moi, je suis vraiment très, très intéressé par ses travaux, et il montre notamment que les notions d'empathie et d'aversion à l'iniquité, c'est pour ça que j'ai utilisé la formule, je la tire de ses travaux, enfin bon, c'est pas lui qui a inventé la formule naturellement, mais d'empathie cognitive et d'aversion à l'iniquité sont développées chez les animaux, même si ils se gardent bien de brouiller la distinction, on lui a reproché, mais il réfute à juste titre ce reproche, la distinction entre les animaux et les hommes, notamment pas en faisant remarquer que les animaux ne produisent pas de fonction symbolique et que c'est là que se trouve la différence. Mais ils sont capables d'empathie, d'examiner une situation par les yeux de quelqu'un d'autre, enfin par le truchement, donc d'avoir un regard élargi sur la situation, et c'est extrêmement intéressant pour penser la question des valeurs universelles et de leurs limites. Et moi, c'est de lui que je tire cette notion de sentiments moraux plutôt que de valeurs morales, et où on retrouve là une forme de partage au sein de l'humanité. Et son dernier livre, c'est L'âge de l'empathie, il est absolument remarquable. Et un autre auteur, un médecin épidémiologique, qui s'appelle Wilkinson, David Wilkinson, je crois, qui est un Anglais, et qui a écrit plusieurs livres sur la question des inégalités, dans lesquels il montre, non pas d'un point de vue moral, mais presque d'un point de vue physique, il traduit, disons, dans des termes pratiquement physiologiques, d'un point de vue d'ailleurs d'épidémiologiste darwinien, la question de l'aversion à l'iniquité, en montrant que nos réactions face aux injustices nous détruisent d'une certaine manière, c'est-à-dire produisent des mécanismes de stress chronique qui eux-mêmes sont extrêmement destructeurs. Et je trouve que le grand intérêt de Wilkinson, c'est de donner quelques armes. Naturellement, il ne faut pas s'enfermer, enfin, aucun penseur ne résume la chose, mais il nous donne des armes, par exemple, pour penser quelque chose que je trouve très perturbant, qui est le grand programme des Nations Unies. Alors, c'est un peu en tant que membre d'ONG que je parle, mais je suis sûr que, Gus, tu t'y retrouveras aussi. Les objectifs du millénaire, cette espèce d'artillerie conceptuelle là, dont on nous bombarde, et qui met un certain nombre d'entre nous mal à l'aise, parce qu'ils y voient finalement exactement ce que tu évoquais tout à l'heure, sans peut-être le nommer, mais en gros, le marché plus la charité, quoi. L'effet de percolation, de ruissellement que l'on attend de la production d'un grand nombre, enfin de très très riches, dont les retombées vont permettre aux plus pauvres de s'abreuver. Donc une sorte de légitimation théorique de l'inégalité. Et lui, il montre que ce qui est mauvais pour la santé, ça n'est pas la pauvreté, c'est l'inégalité. Et il oppose les deux, ce qui nous stresse, ce qu'on trouve insupportable, la corruption, le népotisme, l'autoritarisme, l'arbitraire, tout ça pouvant se ramener finalement à une sorte de constat d'un creusement d'inégalité qui est lui-même source de stress chronique, pour le redire dans les termes de Wilkinson, et donc qu'il oppose à cette notion de pauvreté. Or, le discours des Nations Unies, un certain discours libéral ambiant, libéral même progressiste ambiant, nous amène à confondre lutte contre la pauvreté et lutte contre les inégalités, alors que il est intéressant, au contraire, de les dissocier, je pense.
Je suis totalement d'accord avec Annie. D'autant plus que quand, si tu fais circuler la déclaration, puisque une fois qu'elle sera faite d'ici une semaine ou deux, je pense, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que effectivement la raison pour la remise en cause de l'égalité par les droits au profit de l'équité, et donc je dis d'ailleurs, c'est suite à ce que tu avais envoyé, que il y a des équités, ça se traduit pas de la même façon. Ça ne signifie pas la même chose dans les différentes langues, oui, en plus. Hein. C'est parce qu'au niveau des OMD, justement, il y a eu un consensus sur le fait qu'il fallait lutter contre la pauvreté. Voilà. Bien que, même au niveau des Nations Unies, on se rend compte que passer de 1 $ à 1,25 $ par jour, ça ne résout pas vraiment complètement la question.
Ça fait quand même avancer. Bon, je reconnais ce que tu dis, mais enfin, quand même, ça réduit quand même un peu la pauvreté. Quand même, on se
C'est très discuté.
Mais c'est des notions économiques, c'est des notions statistiques.
Oui. Ben oui.
Qui ne disent rien sur la perception,
mais oui,
comment les gens se sentent d'accord. Plus mal.
Et sur les modes
ils sont
de
moins
vie.
Pauvres et ils sont plus mal. Voilà. Cherchez l'erreur. Ben, l'erreur, elle est dans cette confusion.
Les Nations Unies expliquent qu'effectivement, la pauvreté a régressé dans le monde parce que la Chine a augmenté sa croissance. Et que donc, il y a eu une élévation des revenus. Mais très bien, effectivement, c'est positif. Mais par contre, et donc ça c'était très intéressant, parce que dans le groupe de haut niveau des Nations Unies sur les OMD, qui a fait le passage des OMD aux ODD, ils ont eu beaucoup de discussions, et ils sont arrivés à la conclusion que sur les inégalités, il n'y avait pas de consensus sur le fait de limiter les hauts revenus. Et ceux des actionnaires. C'était là-dessus qu'ils sont arrivés. Et c'est pour ça qu'ils ont dit on ne peut pas proposer l'égalité comme réponse à la lutte contre les inégalités. Bah, tu vois, c'est très concret, hein, c'est pas un truc général.
Ouais, enfin, ils nous promettent un festin, ils nous offrent un rata, on n'est pas obligé d'accepter le rata.
Voilà.
C'est le.
Voilà.
Les ONG, et je ne sais pas où en est le mouvement intermondialiste là-dessus, mais je trouve les ONG d'une passivité, d'une faiblesse insigne là, non. Les Nations Unies l'ont dit, donc les objectifs du millénaire pour le développement doivent être notre mot d'ordre. Enfin, c'est incroyable, ils ont l'air de vouloir marcher au pas au son de la trompette des Nations Unies. C'est dingue.
On passe les OMD aux ODD.
Alors, simple pragmatisme, qui va te donner de l'argent?
Mais ils sont même, c'est même pas.
Non, c'est même pas.
C'est plus profond. Ils distribuent pas d'argent les.
Ah bah Bill Gates Foundation, si.
Non, non, mais, oui, mais pas enfin, les Nations Unies.
Il n'y a pas beaucoup d'ONG.
Si tu ne rentres pas dans les OMD, tu ne rentres pas dans les protocoles d'acceptation.
Oh, non, je crois pas.
C'est une doxa quand même qui est largement partagée.
Ah non, je crois plus profond que ça.
C'est un.
C'est
un rabattement sur le. C'est vrai, ce n'est pas faux, ce n'est pas faux, mais. Je pense qu'il faut regarder quelle est l'autonomie idéologique
exactement.
Et pas seulement,
absolument. Pas seulement
la réponse
financière. L'autonomie de pensée. C'est...
Les devants de père. Si nous, on peut dire ça aujourd'hui, c'est parce qu'on a dépensé zéro sou, zéro centime.
Oui.
En 2013, on a besoin de personne pour le faire, à part le centre Malheur. Et donc, on a une totale liberté d'expression, totale liberté de communication. On envoie ce qu'on veut et ça ne va pas nous pénaliser, puisque de toute façon, on est dépendant de personne. Et je pense que ça, c'est quand même un élément fondamental.
Je pense qu'il y a, il y a aussi dans les travails de déconstruction aussi de ces organisations internationales, il y a un petit texte qui est très efficace pour le coup, c'est le texte du président de l'UNESCO au moment de sa fondation, qui est le frère d'Aldous Huxley, et qui est lui-même quelqu'un qui est un biologiste anglais, porteur de l'eugénie, c'est sa doctrine de l'époque. Le texte qu'il écrit quand même en 1946, donc juste après la guerre, est affligeant. Enfin, et on voit bien que les bases même de l'UNESCO au moment où elle se construit, elles sont quand même sacrément discutables. Ces instances-là, elles ont un rôle.
En gros, qu'est-ce qu'il contient, ce texte?
Il dit en gros la lumière de l'Occident doit régner sur le monde.
D'accord.
Oui, mais ça, c'est l'époque.
Cette organisation a pour mission de travailler sur l'éducation, et cette éducation, c'est bien celle que nous allons proposer au reste du monde, qui va faire un modèle finalement très singulier, qui est très situé dans le temps,
UNESCO.
Qui est de dire UNESCO. Si on n'a pas réussi à transformer le monde, c'est parce que les humains qui sont dans ce monde-là ne correspondent pas au monde qu'on veut, donc il faut les éduquer.
Oui, d'accord.
Du raisonnement.
C'est vraiment l'esprit de l'époque, l'esprit impérial de l'époque.
Et le relire et le revoir, permet tout d'un coup de se rendre compte que ça fonctionne encore. Ça fonctionne encore.
Ça fonctionne encore, mais c'est contradictoire. Il n'y a pas que ça qui fonctionne. Parce que moi, sur les Nations Unies, par exemple, je suis très intéressé par le fait que les Nations Unies. Ont tous les défauts d'origine, de machin, etc. Mais quand même, les Nations Unies ont été confrontées avec la montée des luttes de libération nationale et du mouvement de décolonisation à muter d'une certaine arbitrer et créer un droit et des propositions qui ont soutenu des luttes de la décolonisation. Donc, le péché originel. n'est pas suffisant pour tout expliquer. Mais ça existe, bien sûr. Et donc, c'est pour ça. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est très intéressant. Là, on est en phase de ratification du protocole pour les droits économiques, sociaux et culturels. Bon. Bon, ça a été une proposition qui a été faite par un certain nombre de pays à la conférence de Vienne en 94, je crois. C'est comme ça. Il faut un protocole facultatif sur les droits économiques, sociaux et culturels. Bon. Il y a eu 10 ans, non, 15 ans, de préparation de ce protocole. Et dans la préparation de ce protocole, pratiquement, à part 2 ou 3, tous les pays étaient contre. Tous les pays étaient contre. L'idée que le droit est opposable. Enfin, c'était un peu ça l'idée. Ce qui contenait sur le protocole, c'était le droit opposable. Et quand il y a eu le vote, ça a été voté à l'unanimité. Parce que personne n'a osé voter contre la charte, d'une certaine manière. Tu vois. Donc il faut voir les contradictions internes à une institution. C'est quand même très intéressant. Évidemment, ça ne veut pas dire que ça va être appliqué, que ça va tout changer. Mais bon.
Mais c'est au contraire. Je pense que les acteurs eux-mêmes vont agir contre ce qui a été voté.
Oui. Oui. Enfin bon. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de... On a beaucoup de réflexions sur... Et quelles sont les modalités stratégiques? Comment on met en œuvre une stratégie au niveau du mouvement? Et donc, en fait, on dit qu'il y a 4 modalités stratégiques sur lesquelles on essaie de s'appuyer. La première, c'est les luttes et les résistances. Effectivement, c'est à partir... Parce que, comme dit Sylvain Deleuze, résister, c'est créer. Donc, les luttes et les résistances comme fondement de... Bon, deuxièmement, les pratiques d'émancipation concrètes, c'est-à-dire justement toutes les pratiques d'invention qui justement ne sont pas au niveau du droit, partent du fait que le droit n'est pas suffisant ou je ne sais pas quoi, mais et qui sont tout ce que l'on voit tout autour. Je crois que c'est très important. La troisième, c'est l'élaboration. Bon, ce qu'on fait ici, effectivement, la capacité de penser, quoi. Et la quatrième, mais qui n'arrive, enfin, qui pour moi n'arrive qu'en quatrième, c'est la proposition de politique publique d'accès aux droits. C'est pas les politiques publiques de droit, c'est les politiques publiques d'accès aux droits. Et on voit que c'est pas seulement parce que les pratiques d'émancipation concrète sont souvent locales, mais pas toujours. Hein. Par exemple, le droit des femmes, on voit bien que le droit à l'avortement, ça, comme je souviens, ça a été national. Enfin, donc on peut gagner des trucs sans attendre la révolution, disons. C'est un peu ça l'idée. Hein, mais il y a des politiques publiques. Ce qui qualifie l'intérêt d'une politique publique, c'est quand elle se situe dans l'accès aux droits pour tous. C'est-à-dire quand justement elle n'est pas discriminante et qu'elle n'est pas inégalitaire. Ben voilà, un peu pour montrer que c'est pas uniquement l'idée de faites-nous de bons droits, nous ferons une bonne société.
Est-ce que Ronny, tu veux dire un petit mot de conclusion? Parce que je sais que...
Je ne sais jamais, je sais pas jamais conclure, moi. Non, merci. Bon, non, Auguste...
Bien conclure. Bon, ben, merci beaucoup. Hein.
Merci à toi.
Merci.
Et puis, donc, on va voir si la technique... Avec votre autorisation, je sais pas, est-ce que vous avez donné l'autorisation que...
Oh, oui, 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 je suis pas sûr que ce soit vraiment audible.